l'auberge du Lion d'Or et son enseigne. Devant vous, l'ancienne auberge de Châtillon. Il s'agissait de la seconde auberge du village, après celle du Dauphin, devant laquelle vous venez juste de passer dans l'ancienne grande rue. Celle-ci s'appelait l'auberge du Lion d'Or. Mais pourquoi ce nom ? Eh bien, à l'époque, beaucoup de gens ne savaient pas lire. Alors pour se repérer, on se fiait aux enseignes. Au Lion d'Or. Une enseigne en forme de lion doré, c'était un symbole bien connu qui signifiait « on peut y dormir et on y mange aussi ». Mais ne la cherchez pas, elle n'existe malheureusement plus. Ces enseignes avaient été rendues obligatoires par un décret d'Henri III, roi de France, qui avait décidé qu'il fallait des symboles visibles pour les commerçants et aubergistes. Voilà un peu l'histoire derrière ce lion doré. Vous pouvez également observer une autre fenêtre. Une fenêtre en anse de panier avec des bords assez larges, typique des boutiques et ateliers d'antan. Pour les commerçants et artisans, ces fenêtres étaient parfaites pour exposer les marchandises aux passants. Si vous faites un micro-crochet gauche-droite vers la rue de la Boulangerie, vous ne manquerez pas cette belle maison typique au numéro 67 avec ses fenêtres à meneaux. Ça y est ? Vous y êtes ? Vous vous demandez ce que c'est ? Eh bien, regardez cette grande baie devant vous. À l'origine, elle était entièrement ouverte, sans la fenêtre actuelle avec son arc en anse de panier. Imaginez-la quatre fois plus large, laissant entrer une lumière abondante dans la pièce qu'elle éclairait. Les meneaux, ce sont ces éléments horizontaux et verticaux qui divisent la baie en plusieurs parties. Autrefois, ils structuraient de vastes ouvertures, essentielles pour illuminer les intérieurs. Mais après la Révolution française, tout a changé. Vers les années 1798, un impôt a été rétabli sur les portes et fenêtres. L'idée venait d'un député du Sud qui cherchait un moyen de renflouer les caisses de l'État. Résultat, pour payer moins d'impôts, les habitants ont rapidement muré leurs ouvertures, ne laissant que de petites fenêtres centrales. Une astuce bien pensée, n'est-ce pas ? Ce qui est fascinant dans cette maison, c'est qu'elle conserve des traces de ces changements. Juste au-dessus de la pierre d'évier, un petit lucarnon, c'est-à-dire une minuscule ouverture, permettait d'éclairer l'intérieur. Et sous l'évier, une goulotte facilitait l'évacuation des eaux usées. Un véritable témoignage du quotidien d'autrefois. Voilà un bel exemple d'architecture qui raconte l'histoire. À travers ses fenêtres et ses murs, cette maison nous murmure les adaptations et les astuces des siècles passés. Revenez en arrière et faites une halte à l'angle de la rue du Calvaire et de l'ancienne grande rue. Je vous invite à chercher une caractéristique architecturale. Non ? Vous ne voyez rien ? Laissez-moi vous guider. Regardez bien autour de vous. Vous voyez ces angles coupés sur les bâtiments ? Là, juste devant, un pan coupé bien visible, et un autre, plus discret, un peu plus loin. Et ici, un angle adouci en arrondi. Pourquoi ces formes particulières ? Eh bien, autrefois, on circulait à pied, à cheval ou en charrette. Pas de volant, encore moins de direction assistée pour tourner facilement. Les roues des charrettes risquaient de buter contre les angles vifs des bâtiments. La solution ? Couper ces angles pour faciliter la circulation et éviter les accrochages. Vous retrouverez ce même principe sur les jambages de portes. Plutôt que des angles droits tranchants, on privilégiait des formes arrondies. Une architecture pensée pour la vie quotidienne d'autrefois et qui continue de marquer le paysage urbain d'aujourd'hui.